Et cette semaine, nous allons célébrer le 80e anniversaire de l'un des princes des placards de cuisine, un produit que quelques notes de musique seulement devraient vous permettre de reconnaître à coup sûr, enfin si vous avez plus de 35 ans. Voilà, musique publicitaire quasi mythique des années 80, la Collegiala, pour vanter les mérites de Nescafé, évidemment. Bonjour Olivier Bergère.
Bonjour.
Vous êtes le directeur général de cette marque pour la France. Alors Nescafé, c'est le café instantané, l'une des marques phares de Nestlé, qui génère plus de 12 milliards de chiffres d'affaires dans le monde, puisque Nescafé est présent dans le monde entier. Cette pub mythique, vous avez été obligé de l'abandonner ?
On l'a exploitée pendant très très longtemps. Elle était effectivement mythique, mais il faut savoir se renouveler. C'est exactement ce que Nescafé fait toujours. Donc on a changé plusieurs fois depuis cette pub. Donc même les jeunes aujourd'hui connaissent Nescafé.
Alors revenons peut-être à l'histoire. Nescafé a 80 ans, je le disais. Comment est-ce qu'il voit le jour ? Nous sommes au Brésil, il me semble.
Exact. En fait, dans les années 30, il y a eu une surproduction de café au Brésil. Et pour réussir à écouler tout ce café, il y avait deux solutions. Ou le jeter à la mer, ce qui est arrivé pendant plusieurs fois. Ou trouver une façon de le fabriquer et de le conserver. Et là, ils ont eu l'intelligence ou la chance, je dirais, de faire appel à Nestlé, qui à l'époque savait faire du lait en poudre, pour faire du café en poudre.
Alors là, on est dans les années 30, et puis arrive la Deuxième Guerre mondiale. Il y a beaucoup de marques qui périclitent ou qui voient leur croissance chuter avec ce conflit, mais alors pas Nescafé, parce qu'il va abreuver les troupes américaines.
Absolument, c'est tout à fait exact. En fait, dans les packs des GI, il leur fallait un café, donc c'est quand même plus facile de transporter un café en poudre à l'époque. Et donc, en France, quand les GI ont débarqué, dans leur sac, au moment du débarquement, ils avaient ce petit pot, cette petite boîte métallique de Nescafé. Et évidemment, les Français ont découvert, au moment de la libération, le Nescafé un peu partout en France. C'était le café de la libération.
On dit que votre meilleur ambassadeur à l'époque, c'est le général Eisenhower.
C'est exact. Le général Eisenhower avait même recommandé de consommer du Nescafé. Et il s'en faisait importer directement depuis les US pour avoir toujours sa dose.
Et puis alors, le jackpot, c'est qu'en plus, à la libération, Nescafé va être diffusé dans les colis alimentaires d'urgence qui sont envoyés par les Américains aux populations démunies.
Ça s'appelait les colis CARE, du mot américain CARE, prendre soin. Ça voulait dire coopération américaine pour la reconstruction en Europe. C'était magnifique et il y a eu
C'est magnifique et ça a été magnifique pour Nescafé, quoi. Parce que là, ça a diffusé extrêmement largement votre produit.
Effectivement, c'est presque le début du marketing. On a fait une forme d'échantillonnage gratuit à toute la population française, mais involontairement, parce qu'en fait, ça venait plutôt d'une idée saine et bienveillante, qui était d'aider les populations à se reconstruire, en fait.
À l'époque, la recette du Nescafé est très différente de celle que l'on boit aujourd'hui.
Oui, absolument. Le café à l'époque, pour réussir en fait à le sécher et à conserver tous les arômes, était sur une base de sucre. Et donc cette base-là a été supprimée une vingtaine d'années après. Et puis après même encore améliorée, quand Nestlé a inventé la lyophilisation, qui est un procédé ultra sophistiqué pour préserver encore mieux les arômes. Toute l'histoire de Nestlé sur le café, c'est toujours d'essayer de gagner, en fait, dans la préservation des arômes.
Et les Français boivent beaucoup de Nescafé ?
La France est le cinquième marché au monde pour Nescafé, donc c'est quand même un marché important.
Derrière qui ?
Alors, le premier marché, évidemment, c'est les US. L'Angleterre, en Europe, est le plus gros marché, par exemple, ce qui est quand même un comble au pays du thé. Mais souvent, c'est dans les pays d'origine thé que le café soluble a évidemment été le plus plébiscité.
Les mauvaises langues diront que le Nescafé fonctionne dans les pays où on ne boit pas de bon café.
Je ne suis pas une mauvaise langue.
Mais c'est un café d'appoint, alors ça ne va pas vous faire plaisir. Bon, il est hyper simple à préparer, ça a été longtemps son gros argument. Mais aujourd'hui, il y a encore plus simple avec le café en capsule. Vous ne souffrez pas trop de cette concurrence ?
Non, vous voyez, en fait, depuis 20 ans, le nombre de tasses de café soluble qui sont consommées en France est absolument resté identique.
Alors que la population a augmenté ?
alors que la population a un peu augmenté, je vous l'accorde. Mais globalement, c'est quand même une grande stabilité de la consommation du café soluble qui a un usage. Moi, tous les matins, je consomme mon café soluble, j'adore, c'est ultra pratique. Quand on se réveille, on n'a pas à se prendre la tête. En quelques secondes, vous avez fait chauffer votre eau, vous avez votre café, à la dose que vous voulez. Vous pouvez l'avoir pris avant votre épouse, après votre... Enfin, vous voyez, c'est une
ça
praticité
totale. Ça veut dire
que
les capsules ne vous concurrencent pas? Ça concurrence plutôt le café moulu, café filtre?
Alors exactement, les capsules ont énormément en fait pris... tout simplement sur le café moulu ou le café en grain. En fait, il y a eu ce transfert qui s'est opéré dans les 20 dernières années. Et puis, le café en capsule, c'est quand même plutôt le café de l'après-repas.
N'empêche que en 2006, vous lancez la machine Dolce Gusto. C'est quand même une petite révolution parce que pour la première fois, vous abandonnez le domaine du soluble.
Exactement. Mais Nescafé plutôt a en permanence cherché à être innovant dans l'air du temps. Donc le marché des capsules s'est beaucoup développé en France. La France est un des pays les plus importants.
Et Nespresso de la même maison vous
voilà,
a payé des
exactement, coupières. Exactement. Nespresso a ouvert le chemin et Dolce Gusto a poursuivi. Effectivement, les capsules sont des produits extrêmement intéressants pour l'après-déjeuner. Hein. Les espressos sont quand même d'une qualité bien, bien supérieure. Bon, par contre, le rapport qualité-prix est différent. Hein. Une capsule, ça vaut 3 fois plus cher à la tasse qu'un café soluble.
Et qu'est-ce que ça représente aujourd'hui, Dolce Gusto, dans votre chiffre d'affaires?
C'est la moitié.
La moitié en, ouais. En un peu plus de 10 ans.
Ouais. C'est-à-dire qu'il y a 10 ans, on ne faisait pas le même chiffre d'affaires. Nescafé Dolce Gusto nous a apporté 2 fois plus de chiffre d'affaires, si vous préférez.
Aujourd'hui, Olivier Bergère, c'est quoi l'avenir du Nescafé?
Alors, on a plein de voies de développement. Par exemple, aujourd'hui, on a lancé le bio.
Le café équitable, c'est quelque chose qui vous concerne ou pas du tout?
Bien sûr, absolument. Alors, Nescafé, évidemment, compte tenu des quantités de café qu'il achète, doit en fait ne pas se limiter à des micro-initiatives. Mais ce que Nestlé appelle le plan Nescafé, en fait, est certifié par Rainforest Alliance et certifié par 4C Organization, qui sont des organisations mondiales, justement, qui assurent un mode opératoire durable dans la production de café dans le monde entier.
Merci. Olivier Bergère, directeur général de Nescafé pour la France. Merci d'avoir été cette semaine l'invité de Ça nous marque sur France Info.